se reconnaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France qui protestent contre le prix élevé du gazole.
Tu vas faire les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement avec aujourd'hui Sandrine Laurent, Philippe Duclos à la technique et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur. Le pic prune, combien de divisions? Comment ça? Vous ne connaissez pas le pic prune, mais qu'est-ce que vous faites le dimanche, hein? Sans les insectes, je vous pose la question, qui ferait la corvée de ménage sur Terre depuis 400 millions d'années? Sans oublier que ces charmantes bestioles, avec leurs 900 000 espèces connues, eh bien, représentent l'essentiel de la diversité du monde animal. Et vous, eh bien, vous préférez continuer de collectionner les vignettes des footballeurs Panini. Bon, alors, séance de rattrapage avec Libération qui nous a emmené cette semaine visiter le château de Tanlay dans l'Yonne et son allée de tilleuls centenaires, une allée classée monument naturel et refuge présumé d'une bande de scarabées suspectés de squatter les lieux depuis 1797, à savoir Osmoderma eremita, plus connu sous le nom de pique-prune, qui avait déjà fait parler de lui. Oui, oui, rappelez-vous, c'était dans les années 90, le pique-prune avait bloqué pendant plusieurs années le chantier de l'autoroute Le Mans-Alençon. Alors, dans la famille des coléoptères, on va faire un peu de pédagogie, vous avez la coccinelle, le hanneton, mais aussi le scarabée. Et le pique-prune, eh ben lui, se nourrit de champignons que l'on trouve au creux du tronc des vieux arbres. Or justement, ben les arbres ne font plus de vieux os ni de vieux troncs dans nos campagnes, coupés au carré, au nom des préceptes de l'agriculture moderne, du genre « dans tes champs, maïs ou colza, tu sèmeras, et pas une haie, tu ne laisseras ». Bon alors vous me direz, qui se préoccupe de l'avenir d'une variété de scarabées arboricoles ? À part quelques associations, pas grand monde, et tant mieux parce qu'elles ont fait un véritable boulot intéressant, en particulier Lyon Nature Environnement. Car tout est question d'équilibre et de diversité dans les milieux naturels. Et contrairement à l'homme, la nature a compris depuis belle lurette le danger des grands monopoles. La preuve par l'exemple avec la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Bref, je vous passe les détails de notre histoire de Pic Prune, hein, convention de Berne sur les espèces protégées, association pour le droit au logement des scarabées et de toute forme de vie sur Terre, indépendamment de tout critère de taille, de nombre d'ailes, de pattes, de mandibules, etc. Sans oublier l'intervention de Chantal Joileau, notre invitée aujourd'hui. Alors, bilan de l'opération. Le Conseil Général de Lyon renonce à l'abattage des tilleuls centenaires. La châtelaine du coin, peu sensible aux arguments écologiques, se contentera d'élaguer les branches des dix tilleuls. Les troncs resteront. On a sans doute sauvé les pics prunes et comme le disait l'abbé Pierre, eh ben en les sauvant, on s'était peut-être sauvé un peu nous-mêmes, non ? Alors vous le savez, nous débutons par une actualité et cette semaine, eh bien, cette actualité va nous emmener aux États-Unis où nous allons rejoindre Hélène Krievi-Esner, journaliste à rue 89, à Politis, qui habite en Caroline du Nord, qui se trouve au sud de Washington. Hélène, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
On vous a fait le veto, hein, parce que là...
Oui,
il y a
quand même... un peu.
Oui, il y a l'Égypte illégale. Le pic prune, vous le connaissez parce que vous aviez déjà écrit hein, sur le sujet, je crois.
Ah oui, c'était en 98, à Libération. À ce moment-là, je couvrais cette histoire de pic prune. Qu'est-ce qu'on s'était moqué de moi, enfin gentiment.
Mais bien sûr,
c'est quand
oui.
même un peu sarcastique, quoi. Une autoroute, un pic prune.
Et voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, on va parler d'actualité aux États-Unis qui n'est pas forcément très florissante parce que le Congrès des États-Unis, on va dire, s'est dégonflé cet été en abandonnant son projet contre les changements climatiques. Et on va avoir une actualité là, qui normalement doit avoir lieu lundi. Racontez-nous.
Oui, alors, d'abord, cette histoire de Congrès, c'était le projet de loi énergie-climat que Obama et d'ailleurs tous les démocrates pendant la campagne présidentielle avaient annoncé comme étant une manière pour les États-Unis de rattraper leur l'espèce de honte qui entachait le pays depuis 25 ans. On niait la réalité de l'effet de serre, on disait que les États-Unis allaient rien changer dans leur mode de vie, etc. On refusait Kyoto et tout, et Obama avait promis que lui, il allait faire quelque chose.
Quoi,
d'ailleurs. D'ailleurs, quand il était à Copenhague, il n'avait pas voulu prendre d'engagement, parce que tout de même, il ne peut pas prendre un engagement si son congrès ne va pas suivre derrière, c'est idiot. Mais il avait dit tout de même que ça allait bientôt venir. Mm-hmm. Et ben, en fait, ça ne viendra jamais, parce que le congrès, qui est en fait l'équivalent, c'est le Parlement plus le Sénat, a décidé de tout mettre à la poubelle. Ça faisait deux ans qu'il travaillait là-dessus. C'est pas Obama, c'est pas l'administration Obama qui a abandonné, ils en sont absolument désolés, mais c'était trop difficile. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les élus démocrates, ceux du camp d'Obama, ils ont été d'une couardise absolument incroyable, tout notamment ceux qui sont élus des États charbonniers, gaziers, pétrolifères. Donc ils n'ont pas osé affronter le big oil, les big coal, comme on appelle ça, comme on appelle ici. En plus, vous avez tous entendu parler des Tea Party, c'est-à-dire la droite très très conservatrice américaine qui a toujours combattu ce projet de loi parce qu'il voulait pas heurter les intérêts des charbonniers, des pétroliers et des gaziers. Et en plus, ils agitent des arguments anti-science, anti-élite. Enfin, c'est quelque chose d'absolument stupéfiant. Mmh. Bon, ben, ils ont provoqué l'impensable. Voilà. Le Congrès a craqué. A craqué, a tout abandonné. Et les écologistes, les environnementalistes, comme on dit ici, qui s'étaient écharpés pendant des mois, voire deux ans même, depuis le début, pour savoir si il convenait de soutenir ou au contraire de torpiller un texte qu'eux, ils estimaient trop timide, trop favorable aux industriels et tout, eh ben, là, ils sont restés comme deux ronds de flanc. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Il n'y aura pas de projet de loi.
Hélène Krivi-Esner, alors justement, lorsque l'on parle donc de ces écologistes, on va dire que d'un côté, on a des verts qui sont donc assez radicaux. De l'autre côté, vous les appelez les écolos un peu plus mous. C'est-à-dire que là, on est partisans de la discussion. On va dire que c'est Al Gore et ses disciples, pour faire tout à fait simple. Bon, mais qui constatent aujourd'hui l'échec de leur stratégie. Et donc, il y a une grande manifestation nationale qui doit avoir lieu lundi. De quoi s'agit-il précisément? Ça va nous emmener dans les montagnes des Appalaches.
Oui, alors ça fait partie d'une nouvelle tentative d'action des environnementalistes qui disent qu'ils en ont absolument, qu'ils sont épuisés de travailler, de vouloir travailler avec les élus, les politiciens. Ils n'attendent plus rien de ce côté-là. Et donc, ils veulent favoriser les actions directes, les actions de masse, en espérant que ça va faire pression. Alors, ce qui se passe ce week-end, ça commence ce week-end, c'est un des fronts environnementalistes, environnementaux aux États-Unis absolument cruciaux en ce moment, qui est la lutte contre ce qu'on appelle en anglais les mountain top removal, c'est-à-dire qu'on arrase les charbonniers, les compagnies charbonnières en Virginie, arrasent, passent à l'explosif les montagnes, les Appalaches, pour extraire le charbon.
Mais tout de suite, dans le paysage, c'est pas terrible, oui.
Donc on voit bien. Et ça fait des décennies que ça dure, et l'administration précédente de George Bush, les permis pour extraire le charbon en enlevant les montagnes avaient été donnés au nom du Homeland Security, au nom de la sécurité intérieure, de la préservation des ressources charbonnières des États-Unis. Ils avaient le droit de faire ça. Donc maintenant, la contestation prend beaucoup d'ampleur, en plus soutenue par l'administration Obama qui est contre ça aussi. Ils ne peuvent pas dire on arrête comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible.
D'autant, Hélène Krivi-Esner, juste un tout petit chiffre sans abreuver nos amis auditeurs, mais je crois qu'à peu près 50% de l'électricité américaine provient en gros des centrales à charbon. Hein.
Charbon, voilà. Ouais, reste, c'est pétrole, gaz et il y a un peu de nucléaire.
Il y a un peu de nucléaire, oui.
Voilà. Donc le charbon est essentiel aux États-Unis, mais alors si encore il s'agissait de centrales à charbon neuves, toutes propres et tout, mais l'essentiel des centrales à charbon aux États-Unis, c'est tout de même quelque chose d'assez dégoûtant. Alors la pollution, non seulement pour l'effet de serre, mais pour la santé directe des gens, il ne s'agit pas de CO2, il s'agit de polluants,
de pollution,
c'est absolument
vraiment
abominable. Ouais. Oui. Alors sans compter l'extraction du charbon lui-même.
Alors on va voir donc ce qui va se passer donc lundi avec cette manifestation, suivie, non, etc. Mais on comprend bien que c'est un sujet majeur pour les environnementalistes américains. Juste en nous, une petite minute, on a l'objectif de Cancun, donc ça c'est à la fin de l'année, ce sera au Mexique. Mais donc le négociateur américain a dit cette semaine qu'Obama entendait honorer la promesse faite à Copenhague de réduire de 17% d'ici 2020 les émissions américaines. Comment peut-il faire ?
Eh bien, ce qui est prévu pour l'instant, et c'est là-dessus aussi que les environnementalistes, ceux qui ne sont pas pour l'action directe, mais qui pensent que l'administration pourrait faire quelque chose, placent leurs espoirs. Ils pensent que l'EPA, l'agence environnementale, qui est l'équivalent de notre ministère de l'écologie, va pouvoir réguler avec des règlements, c'est-à-dire sans passer par une loi, réguler ce que les industriels sont autorisés à émettre. Mais franchement, c'est un vœu pieux, si on peut dire, parce que sans une loi, comment voulez-vous forcer les industriels, forcer les gens à réguler leurs objectifs? Actuellement, l'Amérique n'est pas vraiment prête à ça, donc effectivement, Obama va pouvoir continuer à dire que les États-Unis sont de bonne volonté, mais très honnêtement, il n'a pas beaucoup de biscuits à avancer.
Eh bien écoutez, un grand merci donc pour ce point, Hélène Krivi-Esner. Je vous souhaite un excellent petit déjeuner, parce qu'il est 6 heures de moins, donc chez vous. Et puis à très très bientôt sur les ondes de France Inter, et puis aussi on vous retrouve dans Rue 89 et Politis. Merci Hélène, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
CO2 Mon Amour, Denis Chessou sur France Inter, tous les samedis à partir de 14h.
Voilà l'apôtre du crime, voilà l'oiseau du malheur, voilà pourri par le style, le bougnafier qui fait peur. Comme un cow-boy, un cow-boy, un cow-boy à l'homme fraîche. Comme un cow-boy, un cow-boy, un cow-boy à l'homme fraîche. Voilà de bronze en cristal, la conquête du cheval. Voilà la bête cruciale, ennuagée d'idéal. Comme un cow-boy, un cow-boy, un cow-boy à l'homme fraîche. Comme un cow-boy, un cow-boy, un cow-boy à l'homme fraîche. Le buffalo anonyme, voilà la poêle liquide du cavalier en exil. Comme un cow-boy, un cow-boy, un cow-boy à l'homme fraîche. Comme un cow-boy, un cow-boy, un cow-boy à l'homme fraîche. Que dalle à chanter. Comme un cow-boy, un cow-boy, un cow-boy à l'homme fraîche. Comme un cow-boy, un cow-boy, un cow-boy à l'homme fraîche.
Mais non, c'était pas comme un cow-boy à l'haleine fraîche, c'était à l'âme fraîche. C'était Jean-Louis Murat, notre barde auvergnat, donc choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice. Alors, sans tabou, pour que s'évanouisse la mode climato-sceptique, c'est un livre qui sort, on va le dire, dans un creux de vague environnementale, avec un président de la République qui est passé, semble-t-il, à d'autres sujets. Et son auteur, donc, a de vraies convictions écologiques, apprises en marchant. Elle rappelle que les questions écologiques ne sont pas le supplément de débat quand les questions jugées sérieuses ont été épuisées. Le monde politique et environnemental lui reconnaît du courage. Elle ne se reconnaît pas dans les excès de la finance tout en appartenant à un parti qui ne résiste pas violemment sur le sujet. Elle est révulsée par la malhonnêteté de la déferlante écolo-sceptique d'après Copenhague, étayée par des arguments qui sont très peu légitimes. Alors cette émission a été enregistrée hier soir et avec vous, Nathalie Fontrelle, donc on va interroger Chantal Joanneau et on va peut-être commencer par les affaires courantes. Est-ce que dans 2 mois, nous parlerons encore à la secrétaire d'État à l'écologie ?
Je n'en sais absolument rien, mais vraiment rien de rien. Donc voilà, c'est une bonne réponse.
C'est une bonne réponse, on soutient bien un petit peu Nathalie.
Actualité toujours, à propos de l'abandon de la taxe carbone, dans votre ouvrage, vous dites « j'ai envisagé de partir ». Aujourd'hui, on voit que la fiscalité écologique est mise à mal par la loi de finances, avec une baisse des crédits d'impôt sur l'isolation, sur l'achat d'appareils. Pareil, performant, vous envisagez de partir ?
C'est pas pareil. Alors, déjà, les arbitrages sont pas rendus. de la taxe carbone, enfin la contribution carbone, parce que le mot de taxe a tué en fait l'idée, c'est quand même quelque chose de fondamental. C'est une modification profonde d'un système fiscal où on bascule la fiscalité du travail vers la pollution. Et ça me semble être l'un des rares systèmes qui permettent vraiment au marché de donner un prix à la pollution. Sur la révision des niches fiscales, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'elles servent plus à financer les installateurs et les promoteurs qu'à aller dans les poches du particulier. Et par exemple, quand on voit que pour les panneaux photovoltaïques, leur prix a baissé de 50% depuis 2 ans, mais que sur le marché, le prix de ces panneaux n'a pas baissé, on a des interrogations sur la bonne utilisation du crédit d'impôt. Donc c'est un système qu'on doit adapter parce qu'on doit s'adapter aux réalités. Quand les prix baissent, c'est normal que le crédit d'impôt baisse.
Alors c'est pas très très simple déjà d'obtenir un consensus, on l'a bien compris, sur cette taxe carbone entre guillemets. Mais alors obtenir un consensus sur la biodiversité, on en a parlé la semaine dernière avec Robert Barbeau et Jacques Weber, c'est pas simple non plus. Et en même temps, on n'a pas envie du tout de mettre la nature dans un porte-monnaie. Alors que faire?
C'est plus compliqué parce qu'on n'est pas aujourd'hui en capacité de vraiment donner une valeur au service que nous rend la nature. Alors c'est vrai
même
que
si on lui a rien prêté à la nature, mais peu importe.
Mais on voilà. Lui emprunte tout. La nature, c'est ce qui nous fournit notre alimentation, notre eau, nos médicaments, nos cosmétiques, tout l'ensemble de la chimie, tous ces secteurs,
l'air que nous respirons.
Tous ces secteurs reposent 100% sur la biodiversité. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas donné une valeur à ces services. Alors philosophiquement, ça pose un problème parce que lui donner une valeur monétaire, c'est vrai que dans notre cadre de pensée, c'est un peu le danger d'aller la mettre dans un marché classique comme tous les autres marchés. Ceci dit, ne lui donner aucune valeur fait qu'aujourd'hui, à valeur zéro, c'est la variable d'ajustement de l'ensemble de nos décisions politiques. Et c'est toujours, in fine, la nature qui paye. C'est pour ça que dans le livre Sans Tabou, dans l'entretien qu'on a avec M. Fitoussi, on raisonne sur ces nouveaux indicateurs, cette révision du PIB qui est absolument nécessaire si on veut donner une valeur positive.
Qui est l'art de compter ce que l'on gagne, mais jamais ce que l'on doit.
Absolument. Donc il y a un autre pays qui est engagé dans cette démarche, qui est l'Inde, qui a annoncé qu'ils allaient présenter leur produit national vert d'ici 2015. Et il faudrait absolument qu'on arrive à travailler ensemble sur la bonne méthodologie pour réviser notre PIB et donner une valeur positive à la nature. Sinon, ce sera toujours la variable d'ajustement.
Oui, parce qu'en fait, vous expliquez ça très très bien d'ailleurs dans le livre, c'est que le PIB est un mauvais calcul de la richesse d'un pays, parce que plus il y a de pollution et de dépollution, plus c'est bon
plus
pour le PIB.
Plus
il y a d'accidents,
plus il augmente.
Ouais. Exactement.
Et plus on coupe les forêts, plus il augmente également. En fait, c'est d'ailleurs intéressant et c'était Patrick Vivray qui m'avait ouvert les yeux il y a déjà quelques années sur ce sujet, c'est que le PIB a été créé pour passer de la société agraire à la société industrielle. Donc il a été créé pour donner une valeur positive à la société industrielle. Aujourd'hui, on est en train de changer de monde. C'est pour ça qu'il faut changer le PIB, parce qu'il compte en négatif systématiquement la nature. Donc dépolluer quelque chose, effectivement, comme ça a un coût, ça n'est pas nécessairement bon pour notre PIB. On va dire que ça coûte aux finances publiques. Mais il y a des travaux extrêmement intéressants actuellement qui montrent combien la nature est positive. Et on a un exemple très bon, c'est celui de la ville de New York. La ville de New York voulait faire une station d'épuration avec une usine. Ça lui coûtait 6 milliards de dollars à l'époque. Et finalement, ils ont étudié un projet alternatif pour réhabiliter une zone humide, l'équivalent d'un marais, qui permet aussi de filtrer les eaux. Ça leur a coûté 1 milliard de dollars seulement.
Alors là, en vous écoutant, quand même, Nathalie, on se dit quelle différence y a-t-il entre elle et puis Europe Écologie et les Verts? Parce que là, tout ce que vous nous dites là, beaucoup de gens pourraient le signer.
Beaucoup de gens pourraient le signer. Alors, il y a une différence qui est que je suis convaincue qu'il faut quand même de la croissance pour pouvoir financer l'ensemble des services dont la population a besoin et qu'on peut concilier les deux. Et le deuxième élément, c'est que je pense qu'un politique n'a pas le droit d'intervenir dans la liberté de choix individuel, qu'il doit les orienter. Quand il y a des risques, comme des risques sanitaires, c'est normal que le politique interdise. Mais au-delà de ça, une restriction quantitative sur les choix individuels, entre guillemets, je m'y refuse. Alors peut-être que dans les faits, on va se rendre compte que ce n'est pas si simple que ça. Mais intellectuellement, j'ai un peu de mal à aller sur ces deux terrains.
D'où l'avalanche de chartes d'engagement volontaire que vous avez signées avec les industriels,
absolument,
la distribution, le commerce, etc. Ça marche, ça? Est-ce que ça donne vraiment des résultats? Ou c'est juste une signature
sur le papier?
Sur le papier?
Je vais vais prendre juste deux exemples avec la grande distribution. On a effectivement signé une charte, on leur a demandé d'augmenter de 25% la place des produits bio. Ça a augmenté de 30%. Donc ça a plutôt bien marché. Ou alors peut-être que nos objectifs n'étaient pas assez élevés, mais on va les réviser justement à la hausse. Et puis une autre charte qu'on a signée, c'était avec les opérateurs de téléphonie mobile, parce qu'on voulait mettre en place un bonus-malus pour que les personnes rapportent leur téléphone mobile. Vous savez qu'il y a 100 millions de téléphones qui dorment dans des tiroirs, et on manque aujourd'hui de matériaux pour fabriquer ces téléphones mobiles. Bah, sachant ça, les opérateurs sont venus nous voir en nous disant « Non, on fait une charte », et eux-mêmes ont mis en place un dispositif de rachat des téléphones mobiles. Donc, ça marche.
Mais malgré tout, bon, vous roulez pour un parti qui est quand même plutôt libéral. Est-ce que le seul jeu du marché qui ne ment pas peut régler le problème? Ou bien quand même, actuellement, on est en train de se dire qu'il y a des domaines qui vont exiger une régulation qui va être forte à l'avenir?
Mais ça, je suis 100% d'accord. C'est une erreur de croire que le marché seul est systématiquement pur et parfait. Le marché est imparfait, ne serait-ce que parce que la nature n'a aucune valeur. Donc il faut donner une valeur à la nature. Ne serait-ce que parce que la pollution n'est pas taxée, c'est le principe de la taxe carbone. Ne serait-ce que parce que les individus sont mal informés. En général, on commence aujourd'hui à expliquer, voilà, telle espèce est menacée, donc évitez de la consommer. Mais l'individu est mal informé. Donc oui, il faut de la régulation sur les biens qui sont stratégiques. Mmh. Et dans les biens stratégiques, il y a évidemment la question de l'eau, il y a évidemment la question de l'énergie, absolument. Et peut-être que, objectivement, on est allé trop loin dans l'idée que le marché pouvait de lui-même être pur et parfait. Non, le marché n'est pas pur et parfait. Et d'ailleurs, la théorie libérale accepte de la régulation et de la présence de l'État pour tous les biens stratégiques.
Un homme comme Pierre Rabhi nous parle de sobriété heureuse. Jean-Baptiste de Foucault, inspecteur des finances, nous parle d'abondance frugale. Vivray, que vous avez cité, de simplicité volontaire. Après, on a les théoriciens d'une décroissance qui est plus radicale. Dans tout cela, qu'est-ce que vous piochez ?
Dans tout cela, il faut toujours être au milieu des extrêmes. C'est toujours une question d'équilibre. On est allé trop loin dans les excès de consommation. Et c'est vrai qu'on sent tous un malaise face à ces enfants qui, déjà tout petits, sont très conso-addicts. Oui. Addicts aux marques, addicts à toujours avoir plus de biens et dont on sait très bien que c'est pas ce qui les rendra heureux. Et c'est vrai pour un adulte aussi. Maintenant, ça ne veut pas dire que consommer, vivre comme un ermite, va être la bonne solution.
Non, mais
pour
sans
tout
aller
monde.
Jusque-là, est-ce
sans
qu'il
aller
faire...
jusque-là, c'est oui. Un problème de culture. La dimension culturelle, la dimension éducation est absolument déterminante.
Est-ce qu'on a intérêt à le faire ou bien est-ce qu'on a intérêt à ce que ce système aille jusqu'au bout de
sa logique ? On a intérêt à éviter les excès. C'est vrai dans la nourriture, c'est quand même frappant que chaque Français jette chaque année, je crois, 9% de sa poubelle. Oui. Ce sont des produits qui n'ont même pas été déballés. C'est profondément choquant. Tout ça, ce sont des excès. Donc il y a moyen de faire beaucoup mieux sans nécessairement se dire qu'on tombe dans la déprime. Il y a moyen d'être équilibré. Moi, je viens de la campagne. On ne jette pas le pain à la campagne. On sait vivre autrement et objectivement, on est très heureux.
Nathalie ?
Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Vous êtes très heureuse. En même temps, tout à l'heure, j'avais envie de vous poser la question de savoir si vous n'étiez pas au contraire déprimée. Parce que depuis...
Ai-je l'air déprimée ?
Non,
non
bon, mais bon.
Vous êtes très forte intérieurement, donc on ne sait pas. Oui.
Depuis Flopenhague, où moi je l'ai rebaptisé Copenhague, hein, c'est Flop, ça a été un flop, donc c'est Flopenhague, où vous dites que vous avez été, comment dirais-je, je ne sais plus les termes exacts, mais heurté par votre inutilité.
Oui, au début de la négociation, ça ne servait à rien.
Ensuite, quand vous écrivez que vous avez essayé d'organiser une fête de la biodiversité et que finalement vous n'en avez pas trouvé les moyens dans votre ministère parce que, je cite, vous n'avez pas la main. Quand vous dites que les hommes politiques en général, mais je suppose que vous parlez aussi de vous, n'ont pas le temps d'échanger avec les intellectuels, d'échanger avec les scientifiques, etc. Finalement, n'ont pas le temps de faire autre chose que d'être en représentation.
Et d'être dans l'opérationnel en permanence.
Alors, sur ces différents points... Un, on n'a pas le droit d'être déprimé et d'être pessimiste. Sinon, il faut changer de métier. Je dirais surtout qu'on n'a pas le droit à l'égard de nos enfants. Parce que eux, qu'est-ce qui va leur rester ? Moi, mon seul objectif, c'est qu'ils aient plus de chances d'être heureux que moi. Donc, on n'a pas le droit d'être déprimé, on n'a pas le droit
de baisser. Et là, ce n'est pas gagné au monde occidental. Ça l'est pour un papa indien, un papa chinois, un papa brésilien éventuellement, mais...
Dans l'ensemble du monde, ça n'est pas gagné, objectivement. un papa chinois verra son enfant grandir dans un pays où l'air est de plus en plus pollué, mmh. où ils sont confrontés à une acidification des sols qui est considérable, donc une perte de ressources alimentaires. Ils ont des problèmes de qualité de l'eau. Donc on n'a vraiment pas le droit d'être déprimé, de se dire on baisse les bras parce qu'on n'est pas entendu. Nos enfants, eux, nous entendent beaucoup plus que nos aînés. Et encore, nos aînés nous entendent aussi parce qu'ils ont conservé cette sagesse de l'équilibre et ne se retrouvent pas toujours dans les excès de la société de consommation. Quant au dialogue entre les politiques et les intellectuels, le fait est qu'on demande de plus en plus aux politiques d'être systématiquement dans l'action et d'aller apporter une réponse à n'importe quel point.
Et
n'importe quel dossier doit remonter et immédiatement on doit apporter une réponse. Alors c'est vrai que dans ma vie professionnelle, que ce soit au secrétariat d'État ou même avant, ça a toujours été ma bouée d'oxygène de pouvoir discuter avec des personnes qui ne sont pas du même horizon, qui sont entre guillemets des sages un peu détachés des contingences de l'immédiateté dans laquelle nous on vit et qui nous apportent autant. Et vraiment, je pense que le fait qu'ils ne soient pas du même horizon, ça fait aussi énormément de bien.
Allez, une petite goutte d'eau et puis on repart avec Chantal Jouanneau après Carrie Nelson. Top modèle britannique qui chante. Oui, oui, sur France Inter, on aime bien. The ghost to walk, she's on the prowl for the man. Un constat quand même aujourd'hui, on est dans un monde inégalitaire qui fonctionne, on va dire, en mode dégradé. Bon, ces dégradations, nous les connaissons, on ne revient pas dessus dans cette émission. Nous sommes certes des animaux assez géniaux, on a des milliers de savoirs à notre disposition pour apprécier aujourd'hui la situation. On a un seul problème, c'est qu'on est des animaux sans limite. C'est-à-dire qu'on n'a pas de garde-fous financiers, on a peu de garde-fous environnementaux, et les hommes n'ont de cesse après de parler de développement durable dans des discours, avant d'inaugurer un nouvel aéroport, de raser une parcelle de forêt pour y faire pousser encore plus de maïs irrigué. Est-ce que votre boulot, et le nôtre aussi, c'est pas de gérer des contradictions en permanence ?
Ah ben notre boulot, c'est clairement de gérer des contradictions en permanence. Mais surtout, objectivement, on ne peut pas se contenter de dire on va mettre en place un système pour rénover des bâtiments. Ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un savoir qui est beaucoup plus universaliste pour comprendre ce qui se passe réellement autour de nous.
Et alors on qu'on est très spécialisé.
On est trop cloisonné dans nos savoirs. Et c'est vrai que c'est même dommage que les... C'est plutôt quand on est adulte, d'ailleurs, qu'on s'ouvre un peu à ses préoccupations. Et je le dis avec beaucoup d'honnêteté. Moi, quand j'étais en terminale, j'étais incapable de comprendre la philosophie. J'étais peut-être un peu attardée par rapport aux autres. Mais toujours est-il que j'étais incapable de comprendre la philosophie. Et aujourd'hui, je pense qu'on est sur un sujet qui est vraiment un sujet culturel et philosophique. Il y a des tas de solutions. Et c'est marrant parce que je suis en train de lire le livre de Jean d'Ormesson, j'en profite pour vous faire de la pub, mais bon. C'est un livre qui montre bien la rupture à chaque fois entre les anciens et les modernes. À chaque fois, les résistances autrefois de l'Église et puis maintenant peut-être d'une certaine forme de pensée, pas unique, mais en tout cas de pensée globale, il montre à chaque fois les résistances entre les uns et les autres. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à effectivement écrire un nouveau monde. Mais honnêtement, moi, je ne suis pas pessimiste parce qu'il y a plein de gens dont vous faites partie, dont font partie nos propres enfants, qui sont ouverts à ces préoccupations.
Est-ce que Nicolas Sarkozy est encore ouvert à l'écologie ? Les deux dernières fois où il a pris la parole à la télévision, lors d'une interview, il n'en a absolument pas parlé d'environnement. Alors ne me répondez pas qu'on ne lui a pas posé la question. Parce
oui,
que
mais vous avez l'honnêteté de le dire.
C'est vrai qu'on ne lui a pas posé la question, mais là, on est bien d'accord. S'il avait eu envie d'en parler, il en aurait parlé. Il a oublié tout ça, lui, qui a fait le Grenelle de l'environnement ?
Moi, je vais vous le dire autrement. Vous croyez en Nicolas Sarkozy ? Est-ce que Sarkozy croit encore en l'environnement ?
J'ai pas moins de raison de douter de lui. Parce que, honnêtement, il n'aurait pas pris le risque d'en faire autant. Et je pèse mes mots. Il n'aurait pas pris le risque d'en faire autant sur le Grenelle. Quand on l'a commencé, vraiment, c'était un pétard. Hein. On est parti, ils vont claquer la porte, vous allez accoucher d'une souris, vous ne mettrez jamais en œuvre.
C'était évident,
c'était vraiment pas gagné. Donc honnêtement, avoir fait tout ça pour ensuite ne pas le revendiquer,
ce serait
inutile. La réalité, c'est que autour de nous,
c'est un pétard mouillé maintenant, le Grenelle de l'environnement.
Non, parce que les choses avancent. La réalité, c'est que autour de nous, et vous le voyez bien, que ce soit dans le monde médiatique ou dans le monde politique, effectivement, on n'en parle quasiment plus. Effectivement, je ne suis pas pour peut-être salade non plus sur le sujet. Tout parti confondu.
Électoralement, ça pourrait être payant. Hein.
Mais honnêtement, je ne fais pas ça pour me rapporter des voix. Je fais juste ça parce que j'y crois. Qu'à court terme, peut-être que à court terme, ça n'a pas été compris comme tel. Mais de toute façon, dans le moyen terme et dans le long terme, c'est inévitable de faire ces réformes, de les engager et d'en parler. Et puis, on voit à l'inverse que au sein de la population, le sujet ne décroche pas. Tous les sondages montrent que ça reste un vrai sujet de préoccupation, ne serait-ce que parce qu'on a tous dans nos familles un enfant qui souffre de problèmes respiratoires, d'asthme, d'allergies, et qui sont liés à des problèmes environnementaux.
Environnement et santé, ça va être un thème, enfin c'est déjà un thème fort, mais ça va l'être de plus en plus. Hein,
malheureusement, ça va l'être de plus en plus. Problème d'allergie, je vous le disais, on est à 30% de la population aujourd'hui, on sera à 50% en 2030. Ça ne cesse de croître. Problème effectivement de résidus de médicaments dans l'eau, de pollution de l'eau. On est en train aussi de lancer un programme de recherche sur le sujet. Problème de présence des pesticides dans 90% des cours d'eau. Donc on est là sur des impacts à long terme de faibles doses de pollution, mais ça va évidemment devenir un sujet, comme les catastrophes naturelles vont devenir un sujet.
Alors comment on fait pour résister, on va dire, à tous ces lobbies ? On comprend qu'il y a de l'emploi derrière, mais c'est quand même toujours une espèce de pensée unique, une espèce de rouleau compresseur, ce que vous connaissez absolument par cœur. Donc comment on essaye d'infléchir cette affaire-là ? On a compris que ça allait prendre sûrement le temps d'une génération, mais
oui.
Quand même...
Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que je pensais que ça irait plus vite et je pensais que la transition serait plus facile.
Ça bloque où ?
Ça bloque pas parce que les gens sont des personnes malveillantes ou mues par leurs petits intérêts. Ça bloque simplement parce que on a une phase de transition à gérer et que c'est cette phase de transition qui est extrêmement difficile à passer. On voit très bien le modèle suivant, ça on le voit très bien, mais ne serait-ce que quand vous mettez en place la contribution carbone, vous avez des secteurs qui sont particulièrement impactés à court terme et pour lesquels effectivement il faut soit un système d'aide, il faut pour les secteurs qui vont disparaître demain, on les connaît aujourd'hui, il faut des systèmes de formation et simplement les uns et les autres nous disent laissez-nous vivre.
Et donc une remise à plat de la fiscalité.
Donc la remise à plat de la fiscalité, l'anticipation à moyen terme de tout ce qu'il faut faire, mais il faut que le politique arrive à s'inscrire dans le long terme et donc arrive à dire il faut tenir le cap. Il y a des réformes qu'on a prévues pour une mise en œuvre à partir de 2012. Certes, 2012, on ne peut pas prévoir quel sera le résultat des élections, mais il ne faudrait pas que les uns défassent ce que les autres ont fait. Il faut rester dans la continuité sur ces sujets qui sont structurels. Je pense souvent, vous savez, à la sidérurgie. La sidérurgie, on a vu ce secteur s'effondrer littéralement et on n'a pas anticipé. On n'a pas mis en place les programmes de formation. Eh bien voilà, aujourd'hui, on sait qu'on a trop de capacités de raffinage dans notre pays. On sait qu'on aura moins en moins de besoins de raffinage. Eh bien, anticipons, formons ces personnes et préparons-les effectivement à de nouveaux secteurs. La sidérurgie, ça aurait pu nous servir à fabriquer des éoliennes.
L'anticipation aussi sur la baisse du pétrole, quelle que soit l'heure, on va dire, du peak oil aussi, est quelque chose qui est quand même assez fondamental. C'est-à-dire que nos sociétés ne vont pas du jour au lendemain changer de cap. Même si on nous incite à ne pas consommer trop d'énergie, on ne sent quand même pas un élan extraordinaire. On a un peu le sentiment qu'on va épuiser encore l'affaire un peu jusqu'au bout et puis on réagira.
Là où vous avez tout à fait raison, c'est que le pic du pétrole et ensuite sa raréfaction, on sait tout à fait que ça va intervenir de toute façon dans les 10, 20, 30 ans qui viennent maximum. Donc c'est très 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 court à l'échelle d'une société. Puisque par exemple, si vous sortez un nouveau modèle de voiture, il faut 30 ans pour pénétrer l'ensemble du marché, pour une nouvelle technologie. Donc on sait qu'on n'est pas dans le rythme, ça c'est évident. Simplement, certains nous disent « oh mais du pétrole, il y en aura ». Ok, il y aura du pétrole, on pourra utiliser les schistes bitumineux, on pourra aller forer toujours plus profond dans les pôles, mais à quel prix pour nos sociétés alors que tout est fait de pétrole? Tout ici, là, autour de cette table, il y a du pétrole partout.
C'est économique et environnemental.
Et environnemental.
Oui, bien sûr.
C'est un double prix. Mais il y a une vraie, il y a une prise de conscience qui vient d'ailleurs vraiment beaucoup des grandes entreprises. Maintenant, ce qu'il faut, chacun doit être conscient qu'on a tous une part de travail, une part de responsabilité. Tous.
Est-ce qu'on peut dire tout de même que la crise économique n'a pas compromis votre, peut-être pas vos convictions, mais en tout cas votre pouvoir de convaincre, de conviction?
La crise économique, elle révèle surtout les déséquilibres d'un système financier, sa déconnexion avec un système réel. Et peut-être qu'à court terme, ça a un petit peu étouffé notre voix, c'est évident. Mais à moyen terme, à partir de maintenant, on pourrait peut-être quand même tirer le bilan de cette crise économique et l'expliquer. Et il y a beaucoup d'études qui sont sorties juste au tout début de la crise économique qui montraient très bien que les Français font bien le lien entre cette crise, les excès de la finance, les excès d'un modèle de consommation, donc ce qui justement pénalise l'environnement.
Il faut de la pédagogie.
Donc la crise, c'est peut-être aussi un bon moyen de dire stop, on ne va pas continuer comme avant, sinon vous aurez une nouvelle crise dans 2-3 ans.
Et pourtant, d'ailleurs, on continue comme avant, c'est ce que vous disent à peu près tous les économistes censés de ce pays.
On le voit bien, les États-Unis, les prévisions de l'OCDE sont quand même pas extraordinaires, donc il va falloir de toute façon en sortir par un autre modèle beaucoup plus positif pour tout le monde. Honnêtement, il y a un modèle de croissance qui est possible.
Donc c'est pas une fatalité, non, mais parce que c'est un peu ça qu'on nous dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a qu'un seul modèle, donc vous dites bien que c'est pas une fatalité.
C'est pas une fatalité de suivre un modèle qui est né, qui est récent. Il faut quand même se rappeler que ce modèle est très récent. C'est un modèle qui est né au début du XXe siècle, grosso modo, pas plus que cela. On a vécu des siècles sur d'autres modèles.
Et sans parler du mot de croissance d'ailleurs en permanence.
Voilà. Et sans parler du mot de croissance, donc d'autres modèles sont possibles. Ce qui ne veut pas dire un retour en arrière.
En même temps, on sait que l'humanité avance grâce aux crises.
Oui.
On sait que la réglementation, par exemple, sur...
dans l'environnement, c'est tout particulièrement vrai.
Voilà, oui. AZF, une marée noire, une inondation meurtrière, etc.
Ne serait-ce, petite parenthèse, Nathalie, que le mot catastrophe, cata, c'est la coupure, strophe, c'est le récit, donc c'est le récit de la coupure en permanence.
Exactement. Je vous ai bien lu aussi, et notamment, j'ai lu attentivement la partie sur le chapitre sur... Copenhague,
oui.
Puisque j'y étais également, mais je l'ai vécu moi de l'autre côté.
Oh, elle était épuisée.
Vous dites à un moment, vous écrivez, je résume, je caricature peut-être, il nous faudrait une bonne catastrophe pour que l'humanité comprenne.
Oui, et en même temps, on en a tous les jours. Les grandes inondations, on en a malheureusement tous les jours. Mais le drame, c'est qu'on a une grande catastrophe qui est très sourde. C'est vraiment l'explosion des inégalités. Quand vous allez en Afrique, c'est quand même énorme ce qui se passe. Quand on voit des pays où on va faire la queue pendant 4 heures pour acheter la dernière technologie à la mode, et d'autres pays où les gens meurent, mais meurt de faim.
Ça, c'est une des images du film de Nicolas Hulot.
Je trouve la plus juste. Et il ne faut pas s'imaginer que notre monde est fait de frontières fermées où le malheur des uns peut être ignoré par les autres.
Vous avez d'ailleurs à ce sujet donc conversé avec Charles-Édouard Vincent, donc directeur général d'Emmaüs et prof à HEC, et qui dit il faut vraiment aller dans la voie du partage ou bien ce sera la voie du rapport de force aussi bien d'un point de vue national qu'international. Et s'il n'y a pas d'utopie, si on ne la cultive pas, si on ne la fait pas passer d'un modèle micro à un modèle macro, il y a tout à parier que le modèle va aller en se durcissant.
Ah, c'est un garçon remarquable que j'avoue je connaissais pas du tout avant et qui vous ouvre les yeux sur la très grande pauvreté. C'est-à-dire que là vraiment lui s'occupe d'une question que l'on connaît mal parce que souvent on l'ignore un peu volontairement d'ailleurs, hein, ce qui est la très très grande pauvreté. Et il a une vision qui est assez simple, qui est de dire il y a une partie des hommes qui ne pourront jamais revenir dans la vie quotidienne du métro boulot dodo. Pour eux, ce modèle-là est complètement exclu. Par contre, on a la possibilité de développer des modèles alternatifs beaucoup plus coopératifs, dans lesquels ils trouvent chacun une utilité, un sens à leur vie. Et ce qu'il explique très justement, c'est que l'environnement fait partie des mots, fait partie des sujets pour lesquels les gens s'engagent parce qu'ils trouvent une utilité à leur vie. Et que donc, on pourrait effectivement développer quelque chose en ce sens. C'est vrai, quand on raisonne solidarité, on pense pas toujours à la très grande pauvreté qu'on laisse à des systèmes un peu parallèles. Et que là, je trouve qu'il a une proposition qui est assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent pas dans un système métro boulot dodo. Et il dit très justement l'idée que ces personnes qui sont tombées dans la très grande pauvreté puissent un jour revenir au fur et à mesure dans un système normal, c'est une idée folle.
Donc
normal, je sais pas ce qu'on appelle la normalité, honnêtement. Mais bon.
Le lien entre démocratie et écologie aussi est une chose qui est fondamentale. On n'y pense pas encore aujourd'hui.
Oui, ce lien, moi, il m'était apparu assez fortement, je crois que c'était en 2006, où le Conseil de sécurité de l'ONU s'était saisi de la question climatique. Et d'ailleurs, c'est ensuite que
le prix Nobel de la paix a été attribué effectivement au climatologue.
Et ça, c'était assez marquant. C'est-à-dire que pour la première fois, une question de climat, une question environnementale a été traitée sous l'angle de la sécurité. Ça veut dire que cette question, les sujets environnementaux peuvent faire le lit de tous les systèmes autoritaires. Parce que par la pénurie de ressources, demain pénurie de pétrole, le problème de pollution de l'eau ou autre,
la rareté pourra tout justifier.
Voilà. Et ça, c'est le premier point. Donc les modèles démocratiques sont fragilisés par ces problèmes écologiques. Et puis le deuxième sujet, c'est que les modèles démocratiques aujourd'hui n'intègrent pas justement les impacts à long terme, les impacts sur les générations futures. On fait bien des études d'impact, je vais être honnête, on doit les faire sur chaque loi.
Oui,
enfin, mais mon honnêteté intellectuelle m'oblige à vous dire que c'est absolument pas parfait pour vraiment simuler les impacts à long terme. Est-ce que sur tous les projets, on est capable, en fonction d'un coût du carbone, en fonction de l'évolution du prix du pétrole, de sa future rareté, de dire voilà ce que ça va donner dans 20 ou 30 ans, on le fait très peu. Et d'ailleurs, les très grandes entreprises qui étaient les plus avec nous sur le sujet de la contribution carbone sont celles qui résident à long terme sur les infrastructures, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, dans le domaine des déchets.
Et en domaine des déchets, ben j'espère que cette émission sera recyclée. C'est ce que nous faisons sur France Inter, c'est sous forme de podcast.
On stocke import-export de l'hyper-giga-méga-store. Ça booste, ça boom, ça cartoon, ça move à mort. Scotché devant les bacs, tête de gondole, talons tendus sur les starting blocks du groove. Little Bonnie Baboon, la tête dans le casque, batifole, tangue et kiff. Sous les rafales de riff, R&B, techno house, hip-hop, jungle, soul. Rayon New Technology de l'hyper super méga market, Leg DJ, Pickpocket, John Sucker. Pris en flat dans le collimateur de la spy, caméra number 8, panique sec. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à la caisse? Savoir. Qu'est-ce qui se passe?
de son Togo natal, fils du ghetto terreur local, Max Baxter, Boubacar, au Malabar, Black Pendant, dans son boubou bleu, fout le boxon à grand coup de pompe, dans les pyramides de balade bio, fried chicken, fish and chips, boîte à macro, tranche de steak et tranche de thon, cadavre de poulet, de bœuf et de porc, frigorifié. Ça braque et ça stresse, ça braque, ça craque, ça blesse, ça passe ou ça casse. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce? Boum, papa, is in town. Pleine d'aplomb, les DH du boxon pètent les plombs. Perte à la piqûre, la bombe boudinée de garde, je les connais. C'est cool, comme une masse sur l'enclume, du tapis de bitume, HS. De Kylian Rousse, Little Bonnie Baboon, mouille et cool à pitch.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce?
Juste avant de se quitter, on avait trouvé une très jolie petite phrase, hein, Nathalie, peut-être.
Oui. Il paraît que vous êtes le ministre des fleurs et des abeilles.
Oui, ça c'est mes enfants, ça.
Mais ils n'y croient pas, ils n'y croient pas, vos enfants.
Non, ils ne croient pas, ils croient pas parce que les enfants sont rationnels et ils savent très bien que les abeilles n'obéissent pas au ministre.
D'accord. Et vous vivez dans un monde de bisounours ?
Non, honnêtement, je vis pas dans un monde de bisounours.
C'est dur,
vraiment pas. C'est
arriver à convaincre des hommes un peu macho et pas forcément sensibilisés à l'environnement, on y arrive.
Oui, en tout cas, on s'efforce de le faire, oui.
Voilà. Vous y croyez toujours?
Ah bah, de toute façon, je vous le dis, j'ai pas le droit de baisser les bras, ne serait-ce que pour mes enfants.
Alors, on vous renvoie donc à cet ouvrage qui s'appelle Sans tabou pour que s'évanouisse la vogue climato-sceptique. Un petit mot sur le sous-titre. Je disais que vous aviez été quand même gentiment révulsé par les climato-sceptiques.
Ah oui, parce que j'ai trouvé tout cela encore d'une malhonnêteté intellectuelle redoutable. On sait très bien qu'ils ont été financés par des mouvements anglo-saxons proches effectivement de l'exploitation des ressources pétrolières. Il y a eu je ne sais plus combien de rapports pour justement montrer que les conclusions du GIEC étaient fondées. Rapport remis récemment au secrétaire général des Nations Unies qui conclut que toutes les conclusions scientifiques sont vraies, qu'il n'y a pas de raison d'en douter, que par contre, il faudrait améliorer le système de gouvernance du GIEC.
Il y a quand même deux grossières erreurs dans le rapport.
Ce sont deux grossières erreurs, mais honnêtement, on va dire qu'il y a, même si on grossit le trait, on va dire qu'il y a peut-être 5% d'erreurs. Donc il y a 95% de vrais. Les climato-sceptiques, il y a 95% d'erreurs.
Qu'est-ce que vous pensez tout de même de la réunion qu'il y a eu à l'Académie des sciences récemment, qui s'est tenue justement
à huis clos,
les journalistes n'ont pas eu le droit d'entrer, nous n'avons eu le programme et les personnalités invitées à débattre que tard le soir, donc on ne savait même pas qui participait, enfin on s'est renseigné on a réussi à savoir, mais je veux dire, pas de programme, on ne savait rien.
Ce sont des débats qui doivent être transparents parce qu'ils intéressent tout le monde. Et comprendre, et en plus, il doit être transparent parce que comprendre comment s'élabore un raisonnement scientifique qui s'élabore sur des hypothèses, donc qu'il faut chaque raisonnement ensuite a une part de doute. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Et donc ce type de débat doit être public. De toute façon, la polémique sur les climato-sceptiques s'est quand même un peu arrêtée avec l'ensemble des rapports qui sont sortis, qui ont été faits par des universités ou des groupes d'experts sérieux et qui ont montré que voilà, il y avait au fond, l'ensemble des conclusions peuvent être reprises et fonder la décision politique.
Merci Chantal Jouanneau.
Merci. Au revoir.
C'est de mon amour. C'est cette petite émission qui respire sur France Inter.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Et nous allons passer maintenant donc à notre agenda. Oui, c'est encore la dernière page de cette émission.
Et bien on peut trouver tout ce qui se fait en matière d'énergie renouvelable et de maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire à côté de chez soi, ce qui est réalisé, ce qui marche, ce que ses voisins ont fait, sa commune a fait, son entreprise voisine a fait, avec du concret.
Donc on peut aller chez des particuliers, on peut aller dans des entreprises, dans des bâtiments communaux?
Oui, alors on a 110 sites, je ne vais pas les énumérer, mais qui sont répartis sur les 22 régions et on aura des bâtiments collectifs en bâtiments basse conso, donc qui consomment très très peu d'énergie, mais on aura aussi des bâtiments communaux dans le Nord-Pas-de-Calais à Villeneuve-d'Ascq, par exemple, qui ont du bois énergie, du solaire thermique, photovoltaïque et récupération d'eau de pluie. On a des fermes en bio qui sont équipées de petites éoliennes. Il y en a une dans la Drôme, par exemple, et une en Pays de la Loire. Et puis on a aussi un parc éolien de taille un petit peu plus importante, cette fois en Lorraine, à Blamont, avec deux éoliennes qui ont été installées de manière assez exemplaire du point de vue de la concertation. Il y a comme ça toute une série de sites énergie renouvelable, maîtrise de l'énergie, partout en France.
Est-ce que la rénovation des maisons ou des bâtiments est concernée aussi? Parce que c'est quand même le gros de la troupe.
Évidemment, c'est le thème qu'on ne doit pas rater. Donc il y a aussi des sites en rénovation. Il y en a notamment à Paris et puis il y en a un petit peu partout également en France.
Solaire thermique, photovoltaïque, biomasse, éolien, éco-conception, réseau de chaleur, enfin tout y passe. Hein.
Et même de l'hydraulique.
Alors on vous l'a fait un peu dans le désordre, c'était un jeu, il fallait trouver en fait la question, voilà c'est ça. Et la question, enfin le petit chapeau, c'était quand même de vous dire que ce sont les journées portes ouvertes énergie, donc organisées par le comité de liaison énergie donc en France. Là on vous venez d'entendre Raphaël Claustre qui est le directeur. Et donc vous l'avez compris, vous avez de très nombreux sites, aussi bien privés que publics, qui vont montrer des exemples en termes d'efficacité énergétique, équipés en énergie renouvelable et qui sont donc ouverts au public. Voilà, donc c'était cela, donc c'est ce week-end. Vous avez bien sûr tous les sites alimentés par Anne Gouzon sur le site de CO2 Mon Amour. Et donc cette opération se fait en collaboration avec les espaces Info Énergie de l'ADEME. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ce week-end? Alors peut-être pas ce week-end d'abord, mais le mardi 28 septembre, donc mardi prochain. Ça se passe à Mur-et-Rigné. Nous sommes dans le département du Maine-et-Loire. Et le Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents organise une manifestation avec le thème « Nature et loisirs, quel équilibre ?» Ah oui, évidemment, quand vous avez plusieurs usagers, c'est jamais simple. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que au-delà, on va dire, de la protection du patrimoine naturel, qui ne peut pas se limiter uniquement aux actions de faune, de flore et d'écosystème, ça porte aussi sur la relation entre les milieux naturels et leurs visiteurs. Et bien là, ils ont une thématique forte qui est l'accessibilité des milieux naturels aux personnes handicapées. Donc c'est le mardi 28 septembre, le Conservatoire régional des rives de la Loire et de affluents. Ce week-end, alors ce week-end toujours là aussi à Carrières-sur-Seine, 78, ça doit toujours être les Yvelines, sauf s'il y a un décret qui est paru. Voilà. C'est la deuxième édition du village bioéthique en boucle de Seine. C'est un salon de consommation, oui, mais bio, donc qui évite a priori les attrape-couillons, le greenwashing, l'étiquetage fallacieux. Donc on est sur le bio à Carrières-sur-Seine. Et bah tenez, je vais ouvrir un journal qui est très bien, qui s'appelle L'Écologiste, qui a été créé par Teddy Goldsmith il y a déjà pas mal de temps. Et dans ce nouveau numéro, quelque chose m'a intrigué, c'est musique et écologie. Alors qu'est-ce que c'est, Thierry Jacquot, racontez-nous.
Ce qu'on a essayé de faire, c'est de réfléchir un petit peu à la question justement du que faire, parce qu'on assiste à beaucoup de destruction depuis déjà beaucoup trop longtemps, et donc manifestement on a perdu une certaine harmonie, où il faudrait retrouver une certaine harmonie avec la nature, et comment faire? Et donc là, c'est vraiment la question qui nous a guidés. C'est pas une question qui est nouvelle, puisque déjà Platon se posait la question que faire pour avoir une société harmonieuse. Et aujourd'hui, on pourrait ajouter que faire pour avoir une société en harmonie aussi avec la nature. Et la réponse de Platon, c'était la musique, et non seulement la musique, mais l'éducation à la musique. Donc on a voulu reprendre un petit peu cette intuition-là, et puis on est allé voir des spécialistes sur les différents domaines pour justement faire un panorama de l'histoire de la musique et montrer en quoi on pouvait justement cultiver ce sens de l'harmonie chez les jeunes citoyens et les moins jeunes, de façon à espérer pouvoir retrouver une certaine harmonie avec la nature. Donc c'est vraiment un dossier passionnant, qui est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, et qui permet d'aborder aussi bien les musiques traditionnelles que les musiques de Bach ou de Beethoven. Et donc c'est vraiment un panorama assez large, avec ce fil directeur qui est de l'harmonie.
Alors, pour affiner tout cela, donnez-nous un exemple un peu plus précis.
Alors, par exemple, Armand Farati nous a fait un très bel article sur la nature selon Bach. C'est un très bon exemple parce que Bach, justement, il ne copie pas la nature, il ne veut pas reproduire la nature, contrairement à d'autres compositeurs comme Beethoven, par exemple. Mais alors lui, son obsession, c'est l'harmonie. Et à travers cette obsession de l'harmonie, on peut retrouver, évidemment, même si lui, on ne sait pas, si Bach avait peut-être jamais vu la mer, jamais, s'était jamais promené en forêt, ne connaissait peut-être pas le monde des plantes, etc. Mais ce souci qu'il avait du monde extérieur, finalement, était implicite, et on peut retrouver aujourd'hui cette harmonie-là en écoutant Bach.
Ils ont aussi un autre thème dans l'écologiste, interdire les OGM, un enjeu pour la présidentielle. Et oui, ça risque d'être chaud. Merci à tous, à Marion Lelay, Jean-Christophe Pinaza, Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Je vous retrouve avec l'actu du Mon Petit Loup, ce sera demain à 19h54. La semaine prochaine, on retrouvera Jean-Marie Pelt. Et puis je vous emmènerai au Grand Air. Bah tenez, comme Monet, lui aussi au bord de la nature.